Ouais, dans la limite, pour faire le temps qu'elle arrive, c'est comme ça, ça lui évitera de rougir. Je vais vous la présenter, elle n'est pas là. Donc, mais ici, vous aurez Carole Écoffet, donc, qui est une scientifique, elle est née en 67. Elle a un beau diplôme de l'École de physique et chimie industrielle de Paris et elle a fait une thèse. Elle a fait une thèse au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Elle a fait un stage à Leiden et elle est au CNRS à Mulhouse depuis 15 ans. D'accord ? Ce qui commence à donner un pédigré assez intéressant. Et c'est quelqu'un qui travaille sur les interactions entre la lumière et la matière, donc la dualité ombre-corpuscule, c'est vraiment quelque chose d'important. Elle travaille sur les méthodes de fabrication de micro- et nanotechnologies. Vous savez que c'est vraiment à la mode, mais le grand public ne réalise pas à quel point on est déjà dans la nanotechnologie, dans notre quotidien, à quel point les objets que vous utilisez, vos téléphones portables, vos chaussures, sont déjà des objets fabriqués en nanotechnologie. Elle va nous raconter tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est ici, une des raisons pour laquelle elle est ici, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la manière dont on dit, dont on diffuse la culture scientifique, dont on dit la science. Et c'est là-dessus un petit peu que je vais l'interroger, parce qu'elle elle est membre fondateur de quelque chose qui s'appelle les Petits Débrouillards d'Alsace, et elle est présidente des Petits Débrouillards de je ne sais plus quelle autre région, puis elle a fait des choses ici. Les Petits Débrouillards, c'est des gens qui, avec des expériences simples, vous montrent des choses de science très compliquées, mais avec des expériences quotidiennes que vous faites avec de la farine, de l'eau, du sucre, un micro-ondes, une bougie, etc., etc. Donc, comprendre que la science, la vraie science, les mathématiques, les choses très abstraites, c'est quelque chose de quotidien. Et donc, elle a le langage pour le dire. Et nous, écrivains de science-fiction, on a besoin de gens comme ça qui savent nous expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Et nous les expliquer d'une manière à ce qu'on puisse à notre tour, non pas les expliquer parce qu'on ne les comprend pas nécessairement plus, mais au moins les illustrer. Donc on attend qu'elle soit là. Quand elle arrivera, vous saurez qui c'est. Et j'ai les questions à lui poser. Donc tout va bien. Parce que ce qui est embêtant, c'est que moi j'ai les questions, mais je n'ai pas les réponses.
C'est déjà bien d'avoir des questions.
C'est déjà bien d'avoir des questions.
Et même parfois...
Ben, quand on est en science, en tout cas en tant que scientifique, puisque je le suis aussi un petit peu à mes moments perdus, ce que les gens attendent... alors moi, j'ai toujours l'ambiguïté en tant que scientifique. Je suis un scientifique travaillant pour le monde industriel. Je travaille à Airbus. Donc, ce que mes directeurs d'Airbus veulent, et c'est normal, c'est une réponse qui leur permette de fabriquer de meilleurs produits, d'aller plus loin dans leur conception. Donc, ils veulent une réponse, véritablement. Mais ce que les chercheurs qui sont en amont attendent, c'est la bonne question qui va les lancer sur une bonne piste. Parce que le problème n'est pas seulement de trouver un nouveau matériau qui ait des propriétés légèrement similaires, on sait faire, c'est de se dire, tiens, si on pouvait remplacer carrément toute une catégorie de matériaux par une autre, si on pouvait faire des avions en plastique, si on pouvait faire des avions en papier, si on pouvait faire des avions en tas de choses, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on n'est pas seulement dans le « on a changé l'alliage aluminium, on a mis un petit peu plus de carbone ou un peu moins de ceci », mais dans le « on a carrément changé » l'objet avion, qui du coup peut plus être un truc comme ça, qui ressemble à un dirigeable peut-être, mais avec des moteurs qui pourraient aller très vite, donc il n'a pas la même forme, donc on ne le fabrique pas de la même façon, donc il faut qu'on soit sûr d'un certain nombre de choses en amont, et à ce moment-là, on a de nouvelles questions. Donc mon problème, c'est que je suis à la fois à l'interface entre des scientifiques qui m'apportent des questions et des chefs qui m'apportent des demandes de réponses. Et mon boulot, ben, c'est d'arriver à ce que personne ne soit totalement mécontent de la situation et que ça se passe bien. Voilà. Ça devient de plus en plus difficile à meubler, là. Voilà. Mais je pense que la voilà. C'est parfait. Mais je la comprends, elle était dans une table ronde, dans la table ronde d'à côté. Donc, j'ai profité de l'occasion, je t'ai présenté devant tout le monde, donc tout le monde sait, ton passé de danseuse nue, tout ça, et voilà, il n'y a aucun problème, donc tu peux t'installer. Donc je ne fais pas de temps. 40 et pour faire.
Désolée. Alors en plus, le titre, comme il n'y avait pas de titre vraiment défini.
Attention, tu vas faire tomber ton appareil.
Oui. Ah oui. Je vais me poser tranquillement. Donc on va changer le titre, on va mettre « La science, c'est que du bonheur ».
Ouais, ça me paraît. Hein? C'est exactement ce que j'étais en train de leur expliquer d'ailleurs, de toute façon.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué là, d'avoir... Et à vrai dire, quand je suis passée devant, j'ai vu plein de monde, je me suis dit, bon, c'est la séance précédente qui est en train de se terminer.
Et la réponse, c'est pas du tout.
Ah non, on m'attendait. Bien, merci à tous. Oui, ce que j'ai fait en fait, tu sais, j'ai regardé les grandes thématiques scientifiques pour voir un peu qu'est-ce qui peut inspirer des écrivains,
je,
alors.
Je veux quand même te poser une question, enfin, pour essayer de relancer un peu le débat, mais elle ne te surprendra pas. Je disais, la science en ce moment, elle explore l'infiniment petit, nano et encore plus que nano, l'infiniment lointain, parce que vraiment on a des télescopes qui nous ramènent des choses, l'infiniment fugace, l'infiniment éphémère, l'infiniment atemporel, l'infiniment faible en durée, l'infiniment invisible, l'indicible et donc l'inexprimable. Et toi, maintenant scientifique, tu es amené à nous expliquer ça, à nous dire l'indicible, à nous exprimer l'inexprimable, à nous rendre permanent le fugace, à nous rendre quotidien le lointain et à nous rendre accessible l'infiniment lointain. Donc,
tu sais que tu racontes. Oui. Alors,
bon, je vais enlever ça parce qu'en fait, je me rends compte que ça passe très bien. Donc,
Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui, donc. En parallèle à mes recherches au laboratoire sur les matériaux pour l'optique et pour les nanotechnologies, voilà l'intitulé de ma mathématique de recherche, je travaille maintenant depuis quelques mois avec les Arts Déco de Paris et on a lancé un atelier temps 4 qui s'appelle « Exprimer l'imperceptible ». Et on a lancé, j'ai fait une conférence scientifique sur la perception du monde au travers des ondes, en expliquant un peu quels étaient les phénomènes qui nous entouraient, qui permettaient de nous relier au monde. Et j'ai laissé des artistes réfléchir là-dessus et proposer des montages qui expriment tout ça. Et c'est assez étrange de voir comment des personnes qui ne sont pas scientifiques vont capter certains points qu'on va leur raconter et en faire une œuvre. Alors ça me fascine complètement, parce qu'effectivement, nous, on vit en permanence avec l'idée que, ok, la matière, c'est composé d'atomes, les molécules, on voit ce que c'est, puis en tant que physico-chimiste, c'est un univers qui nous semble évident. On s'y balade, on ne réfléchit même plus. Non, mais ça nous semble évident, les atomes, on voit ce que c'est. À la limite, mes collègues, s'ils sont chimistes, ils ont l'habitude de travailler sur des modèles moléculaires, ils fabriquent leurs molécules, et ça leur semble être une réalité qu'on ne remet pas en cause, sauf que ce ne sont que des modèles. Et c'est là ce que tu me demandes, comment on fait pour rendre compte de toutes ces choses infiniment petites, infiniment lointaines ou autres, ben on invente des systèmes qui les rendent perceptibles au niveau du quotidien. Et la difficulté, c'est qu'on finit par oublier qu'on a créé des modèles. Oui, c'était...
Oui, c'est pour ça qu'on a discuté ensemble. Moi, justement, je travaille sur le problème de la confiance en modèle.
Oui. Voilà, donc on va créer un modèle. Une fois qu'on a créé notre modèle, on est tellement content qu'on est persuadé que c'est la réalité, parce qu'on a mis en place une démarche scientifique pour démontrer un phénomène donné, et tout ce qu'on a créé autour, tout l'imaginaire, par exemple, lorsqu'on dessine une molécule, enfin lorsqu'on fabrique une molécule avec des boules qu'on prend dans une sorte de Lego, et que l'on... Je vais mettre ça de côté. Donc des boules... Et puis on relie ça par des bâtons, on montre ça aux étudiants en leur disant « ça c'est une molécule ». Mais vous imaginez toutes les conséquences qu'on va pouvoir avoir après, quand on veut leur apprendre autre chose en expliquant qu'il y a un nuage atomique qui n'est pas tout à fait comme ça, il faut redéconstruire tous les modèles pour en reconstruire de nouveaux. Alors là, ce que j'aime beaucoup en travaillant avec artistes, écrivains de science-fiction, tout ce qui est imaginaire, c'est qu'on a l'habitude de jouer sur les représentations, de les casser, d'en reproposer d'autres. Ce qui fait qu'on ose un peu plus remettre en cause même les modèles proposés par les scientifiques. Mais souvent, on a posé les données scientifiques, les images de science, comme des vérités absolues. Ce qui est, à mon sens, quand même un peu dangereux. Enfin, on voit bien que on a plein de... Je vais donner un exemple qui vient des sciences du vivant. L'identité, je dirais depuis les années 50, même si on le savait un peu, on a commencé à avoir des recherches sur l'hérédité, donc la notion de gène. Ensuite, on a découvert l'ADN, et une fois qu'on a eu cette notion d'ADN, on nous a dit, eh ben, l'ADN, c'est notre identité. Il y a, on a un lien, chaque personne est définie par l'ADN qui est unique, donc, et voilà qu'on nous propose déjà la notion de clone. Donc, clone, on va avoir le même ADN, c'est la même personne. Alors, je vais vous raconter une petite expérience qui s'est faite. Trois clones de vaches qui sont censés donc être exactement semblables. Eh bien, la robe, la couleur des taches des vaches sont nettement différentes. On les distingue parfaitement. Elles ne sont pas du tout pareilles. Donc, ça montre bien que même avec les mêmes données génétiques, on a trois individus qui sont quand même différents. Et en sens inverse, on peut voir aujourd'hui avec les thérapies géniques qu'il est possible de faire des modifications au niveau de l'ADN, et ces modifications ne vont pas transformer l'individu. L'individu reste un. Donc la notion un ADN égale un individu s'est entièrement remis en cause. Bon, ça c'est pour prendre le cas vraiment des mammifères supérieurs, voire de l'homme. Mais au niveau...
supérieure associée à l'homme est intéressante. Enfin, bon,
oui.
Je ne la critiquerai pas. C'est une commodité.
Oui, mais voilà, mais je ne sais pas comment dire. Parce que là, ce que je donnais comme exemple, c'était lié clairement à notre vision en tant qu'humain. Mais quand on observe les modes, la vie un peu qui existe ailleurs, moi, il y a des choses qui me fascinent. C'est par exemple les lichens. Les lichens, tu as un champignon, une algue, et qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc, c'est deux ADN nettement différents. C'est deux. Et l'identité d'un lichen ne se définit pas par un ADN, mais par deux. Donc, il y a des. J'ai appris aussi une chose récemment en lisant les bouquins de Jean-Claude Amezen. Je ne sais pas si vous l'écoutez de temps en temps sur France Inter. Et il a écrit des. Il est président du comité d'éthique de l'INSERM. Donc, Jean-Claude Amezen a travaillé beaucoup sur la vie cellulaire, et sur le phénomène d'apoptose, donc de mort cellulaire. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « La sculpture du vivant », que moi j'ai trouvé absolument remarquable, qui explique à quel point le vivant n'existe que par la mort d'une grosse partie des cellules qui sont créées. Et lorsqu'on commence à comprendre scientifiquement, alors bien sûr ce sont des résultats scientifiques, mais vous imaginez l'impact philosophique qu'il peut y avoir de se rendre compte que 80 à 90% de mort des cellules, la vie n'existerait pas.
De se rappeler aussi que moi j'ai 50 ans, je suis déjà mort 7 fois. C'est-à-dire que la totalité des cellules de mon corps, l'une après l'autre, sont mortes. Elles ont été remplacées par d'autres. Donc j'ai un souvenir très précis de ce que j'étais enfant, bébé, adolescent, etc. C'est une personne totalement différente, qui ne conserve aucune cellule de commune avec moi. Mais ça va très bien, Marcel. Hein.
Oui, donc toutes ces informations, c'est très troublant. Et je trouve qu'il y a un vertige comme ça qui nous prend lorsqu'on pensait avoir des certitudes sur l'identité. Et tout est remis en cause dès qu'on creuse un peu.
Alors justement, ouais. Tu viens de poser un mot qui est extrêmement important. Alors là, ouais. Tu viens de dire un mot extrêmement important pour nous, écrivains de science-fiction, c'est la notion de vertige. Je pense que ce n'est pas Elisabeth qui me contredira. C'est-à-dire que quelque part, tu nous dis, voilà, on est, nous, scientifiques, on met des bâtons dans des boules pour dire, voilà, une molécule, puis on construit un modèle plus complexe, etc. Et à un moment donné, on revient vers l'implication que ça a sur l'être humain, sur ce que nous sommes, et là, on a le vertige. Et ce vertige-là, comment tu le fais passer, toi? Comment tu le dis? Ce qui m'intéresse, c'est le disciple, c'est la transmission de ce vertige. Tu viens de le faire magnifiquement pour le vivant et pour les idées de cellules. Ben, comment le fais-tu, par exemple, pour tes nanotechnologies, pour tes ondes corpuscules? Comment le dis-tu?
Ça, c'est une sacrée question. Ça fait maintenant une grosse dizaine d'années que je fais des conférences pour le grand public. Et je me rends compte qu'une des difficultés à un moment, eh bien, c'est de laisser tomber ce que j'ai appris pour aller vers mon ressenti en tant que scientifique. Alors, j'aime bien Bachelard parce qu'il s'interroge beaucoup surtout sur la fin de sa vie, pas trop au début, mais sur la fin, il reconnaît la part de poésie dans le début de recherche. Et si on ne fait pas passer la poésie, on ne peut pas passer... si on ne fait passer que les équations, on ne peut pas ouvrir vraiment sur le merveilleux des sciences. Et je disais, j'avais envie de changer ce titre pour mettre « La science sécu du bonheur », parce que vous voyez bien, quand vous discutez avec des scientifiques, quand vous allez à la fête de la science ou quand vous écoutez certaines personnes comme Hubert Reeves, alors là je prends un cas extrême, parce que lui, c'est... ou à Mézen, c'est pareil, ce sont des poètes. Et à un moment, vous vous rendez compte qu'il y a bien le matériau où on va vous montrer des choses, on dit ça, on l'a démontré, on a fait des avancées, on sait où on en est. Puis à un moment, il y a l'émotion qui part et on sent la passion. Et quand, les premiers temps que je faisais des conférences grand public, je sais que j'essayais de rester vraiment dans les faits. Et plus ça va, plus j'ose dire, mais regardez comme c'est merveilleux, regardez comme ça fonctionne. Alors là, j'avais fait cette conférence sur les ondes qui nous entourent, pour expliquer qu'on peut voir le monde de différentes manières. On peut avoir un ressenti de l'espace. Et là, j'avais repris les images de Richard Feynman. J'aime bien, je sais pas, là, pareil, ça fait partie des grands scientifiques qui savaient parler de science de façon magique, de façon très, très sensible, très poétique. Alors, il donnait l'image pour comprendre la manière dont on ressent le monde au travers des ondes. Vous avez une personne qui est au milieu d'une piscine, qui est en train de battre l'eau, et un petit insecte ou un capteur, enfin bref, il avait pris un insecte sur le bord de la piscine qui est en train de bouger comme ça de haut en bas. Et bien, s'il analyse l'onde qu'il reçoit, il sait qui est en train de bouger et où et comment ça se passe. Imaginez maintenant qu'il y ait une trentaine de personnes dans la même piscine, en train de chacune de battre des mains un peu à une certaine fréquence, mais à différents endroits. Le même insecte qui analyse le signal devrait être capable de retranscrire qui bouge où. Ça vous paraît un peu fou, parce que quand on voit le côté un peu chaotique que ça peut donner sur les vagues, on va se demander comment. Mais dites-vous que c'est à peu près ce que vous êtes en train de faire tous les jours lorsque vous regardez. Vous avez des informations qui vous viennent, des informations ondulatoires qui viennent d'un peu partout dans l'espace, et sans que vous ayez à le faire volontairement. Nous, mathématiquement, on va dire, il faut faire une transformée de Fourier pour... Oui. Je suis sûre que peu de personnes ici, je ne dis pas personne, mais peu de personnes ont une idée de comment faire une transformée de Fourier, et quasiment personne ne se dit, ben là, je reçois des ondes, une information ondulatoire que j'analyse, et j'en fais une transformée de Fourier que j'envoie à mon cerveau.
Ça arrive quelquefois quand on parle à sa femme, mais c'est extrêmement rare, et ça ne marche pas bien, mais ça arrive. C'est pour expliquer que la science, ça marche aussi dans la vraie vie.
Et donc, cette idée de transformer de Fourier et de penser le monde en termes soit ondulatoires, soit directs, d'espace direct, j'essaye de l'utiliser. Enfin, je reprends l'image qu'avait utilisée Richard Feynman parce que je la trouve intéressante. Et dans le même ordre d'idées, il y a la structuration du temps qui me fascine. Le temps, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir directement. Mais lorsqu'on entend de la musique, lorsqu'on entend des sons, on a l'impression que le temps se structure, mais ça va même au-delà de ça. Puisque lorsqu'on entend une note, lorsqu'on entend un son, on n'analyse pas la pression directe. On sait qu'on reçoit une pression sonore, enfin une pression d'air sur nos tympans, et on va l'analyser. Mais ce qu'on va faire, on va analyser la fréquence à laquelle on a reçu cette vibration. Alors, le souci, c'est que lorsqu'on apprend la nature du son, on nous dit, ben oui, on a une variation de pression, donc on s'imagine qu'on va taper comme un malade sur nos tympans. j'ai calculé le poids qui, enfin le poids équivalent sur le tympan, c'est sur un mètre carré, vous mettez 2 mg et vous avez une idée de la pression qui s'exerce sur les tympans pour entendre un son classique. Donc c'est vraiment, ce que je dis, c'est la princesse au petit pois, vous voyez, c'est sous une tonne d'informations, de pression, de matelas. Alors dans le conte d'Andersen, c'était des matelas, et la princesse, elle était capable de ressentir un petit poids de rien du tout sous je ne sais plus combien de matelas. Eh bien, 36 ? Ouais. Eh bien, notre sensibilité en termes d'audition, c'est à peu près ça. C'est pas c'est comparable. Donc il y a comme ça, simplement parfois, en utilisant des phénomènes du quotidien, on peut retranscrire les phénomènes pour rendre compte à quel point même ce qui nous semble évident a un côté étrange. Donc, quand je dis on fait des transformés de Fourier au quotidien, tout le monde me regarde d'un air bizarre. Mais t'es d'accord ?
Oui,
moi, toi, tu sais que... Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai réussi à convaincre donc les étudiants des Arts Déco de Paris qui maintenant utilisent ces concepts pour créer des œuvres d'art, ce que je trouve sympa.
Ce qui est important aussi, je reviens à cette histoire de modèle dont tu parles. Il y a quelque chose qui a, dans les 30 à 40 dernières années, en partie à cause des technologies de l'ordinateur, ou aussi de calcul, qui a bouleversé un petit peu notre rapport au monde. Parce que faire des modèles, on le fait pratiquement depuis l'Antiquité. C'est-à-dire quelqu'un ou les Grecs ou les Égyptiens qui savent que le cercle, ben, il y a pi multiplié par le diamètre. Enfin bon, ça existe. On a fabriqué quelque chose qui est la théorie permettant de s'appliquer à la pratique. Mais entre maintenant la théorie et la pratique, il y a une étape très importante qui s'appelle celle de la simulation. C'est-à-dire qu'on prend un modèle, et le modèle, on le simule en utilisant des ordinateurs, en utilisant des mécanismes extrêmement complexes, pour arriver à une représentation de la réalité. Et on a la réalité d'un côté, la représentation de la réalité par le modèle, qui est une représentation théorique, la représentation de la réalité par la simulation, et chacun des membres de sa communauté dit « c'est ma réalité qui est la réalité, c'est moi qui ai raison ». D'accord ? Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous connaissez le nombre pi. Vous en avez entendu parler. Vous savez que une circonférence est égale au produit du diamètre par le nombre pi. Vous savez, de pi r. Vous savez, le truc bête. Bon, ça, bon, jusqu'à présent, a priori, vous êtes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Bon. Le problème, c'est que, entre guillemets, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi ? Parce que il n'existe pas de cercle dont l'épaisseur est nulle et dont le centre est un point sans épaisseur. Il n'en existe pas. Si vous êtes capable de m'en fabriquer un, je serais ravi, ça vaut la peine de le breveter, mais ça n'existe pas. Par conséquent, vous avez une épaisseur même infime, même nanotechnologique autour du cercle, donc vous ne pouvez pas mesurer la surface, enfin, le diamètre du cercle et le rayon sans avoir une toute petite incertitude, et donc vous allez obtenir un 3, 14, 15, 92, 65, 35, 9, mais avec un nombre de décimales qui va s'arrêter là. Les mathématiciens vous disent, pi, il y a des décimales à l'infini et on ne sait pas les calculer. On ne sait pas les calculer parce qu'il s'agit d'un nombre transcendant, enfin il a un certain nombre de propriétés. Le physicien vous dit, d'accord, c'est très joli tes conneries, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il existe un ensemble d'approximations du nombre pi qui sont celles que je sais fabriquer. Si je plante une ficelle, je plante un machin dans le sable et que je tourne avec une ficelle, ben je vais obtenir un nombre pi qui va être 3, 14, 16 et c'est largement suffisant, ça a servi à toutes les civilisations pratiquement jusqu'au XXe siècle. Voilà. Donc, et à côté de ça, vous avez la simulation du type qui vous dit, moi je suis capable sur mon ordinateur de calculer les décimales du nombre pi jusqu'à un certain niveau. C'est quoi le nombre pi ? Si vous croyez qu'il existe quelque part un univers dans lequel les cercles parfaits d'épaisseur nulle et de centre nul existent, pi est un nombre transcendant, etc. Si vous croyez que les cercles, c'est des trucs qu'on trace avec des compas sur des feuilles de papier et un truc de crayon, pi c'est 3, 14, 16. Si vous croyez que pi est un nombre, etc., mais que vous avez un ordinateur, vous savez que pi, c'est 232 000. Je crois qu'on est à 232 000 millions de décimales calculées, mais on progresse. Maintenant, on y travaille. Donc, c'est ce nombre-là. C'est pas le même pi. Bon, et on est pourtant d'accord que sur la vie quotidienne, on se sert du même. Mais il y a ce travail entre le modèle, la réalité et la simulation. Et ce qui est gênant, c'est que la réalité ne se comporte pas toujours comme le modèle, elle est même moins bien, souvent. Elle est plus grossière, elle est plus mal foutue, elle triche
par rapport au modèle. Et je dirais même, attends une seconde, et je dirais même qu'il y a un problème un petit peu plus embêtant, c'est que quelquefois, quand vous essayez de convaincre, par exemple, les organismes qui vous donnent le tampon de certification pour un avion ou pour une automobile, les mines, vous savez, qui vous disent votre voiture a le droit de rouler parce qu'elle a les bonnes conditions de sécurité, ou votre avion a le droit d'être utilisé. Eh bien, vous êtes obligé de leur fournir des mesures de la réalité qui sont moins bonnes que la simulation que vous avez faite. Simplement parce que la réalité, on la voit par des outils imparfaits qui sont nos yeux, nos oreilles, nos capteurs, nos trucs, et c'est pas très bon comme qualité par rapport à la finesse de la réalité. Tout au moins, on le croit.
Alors, attends, juste...
Le mathématicien va couper encore. Enfin, celui qui, comme moi, n'est pas néoplatonicien, parce que le néoplatonicien dira qu'il y a ce cercle théorique.
Parfait, avec l'ombre sur la caverne.
Dans une réalité. Mais le mathématicien constructiviste que je suis va te dire qu'en plus de la réalité, il y a la construction mentale. Il y a quatre niveaux, il n'y aura pas trois.
D'accord. Bon, on était déjà en train de les embrouiller, là je crois que vraiment tout le monde est
bon.
Carole, explique-nous.
Alors moi je vais reprendre la notion de modèle et donc je participe chaque année aux rencontres CNRS jeunes à Poitiers où des jeunes de 18 à 25 ans viennent discuter de ce genre de sujet avec des chercheurs et du coup nous les chercheurs après on en ressort avec plein de questions sur nos travaux. On avait travaillé sur justement la modélisation. Il y avait quelqu'un qui expliquait que le modèle parfait, ce serait le géographe qui dessine de plus en plus précisément jusqu'à tel point qu'à un moment, il est obligé de se dessiner lui-même et que du coup, on en arrive à une situation absurde. Si on veut faire un modèle qui soit complet, on est obligé de s'impliquer dedans et on tourne en rond. C'est impossible. Donc forcément, toute démarche scientifique implique une réduction des paramètres du réel. Donc tu dis c'est plus précis peut-être, mais c'est extrêmement réducteur. On est obligé, c'est le principe même du modèle. Mais le souci, si on donne des résultats d'un modèle sans expliquer, sans être conscient de la manière dont on a créé le modèle, de la manière dont on l'a utilisé, mis en place, et non pas des erreurs du modèle, parce qu'à la limite, effectivement, tu nous dis pi, on va le trouver avec une précision énorme. C'est pas ces erreurs-là. C'est l'incertitude sur l'épaisseur du trait réel, c'est l'incertitude. Et c'est ces phénomènes-là qu'on ne nous enseigne, on n'enseigne jamais aux élèves à appréhender cette différence entre le modèle et la réalité, d'où des cours de physique sur la mécanique des forces où le skieur est réduit à un point et il se penche d'une certaine manière et là il tient ou on calcule les frottements, on oublie de tenir compte de sa combinaison ou du fait qu'il y a un sapin devant lui ou du fait que la pente, vous irez trouver des pistes de ski parfaitement de pente constante, parfaitement lisse. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand on demande aux gamins de travailler sur le skieur, sur la piste de ski, ça me fait bien rire, parce que pour les brouiller par rapport à aussi bien à la réalité qu'à l'application physique de ce qu'ils sont en train d'apprendre, il n'y a pas mieux. On leur propose un modèle qui est très éloigné de la réalité.
Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, dans le cas particulier du skieur, tu peux te poser le problème, mais il y a quand même des tas de modèles dans lesquels on travaille en tant que gamin qui sont raisonnablement exacts, ou tout au moins donnant une valeur suffisamment bonne approchée de la réalité pour qu'on y croit. La physique newtonienne est suffisamment bonne pour la plupart des cas. Faut pas l'oublier ça aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, un modèle qui n'est pas conforme à la réalité directement mesurable, si je vous dis j'ai utilisé un modèle qui fait qu'en mélangeant deux œufs, 300 grammes de farine et j'ai un gâteau et que ça marche pas, que le gâteau est vraiment pas bon, je vais remplacer mon modèle en diminuant la farine ou en augmentant le beurre, jusqu'à un moment donné où ça me plaira. Même si un véritable cuisinier vous dit, en fait, il faut mettre 53,6 grammes et 2,43 œufs, ou prendre des œufs d'un diamètre, de grand diamètre tant, ça fait rien. Je veux dire, le gâteau fonctionne quand même. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, le modèle, il se mesure en permanence à la réalité. On fait ce travail en permanence. Mais la difficulté, c'est quand on a un modèle pour quelque chose qui est non mesurable, non discible, non facilement montrable, qui est l'anano, qui est le lointain, qui est le fugace, qui est je sais pas, l'incertain. Mmh. Comment modélise-t-on l'incertain? Comment,
je sais pas. Ah oui, alors là, je crois qu'on est passé fin 19e d'une vision très positiviste en gros, si on a un modèle, si on a des données suffisamment précises en entrée, on doit avoir un résultat précis à la fin. On avait cette idée-là. Et ce que je trouve très intéressant au XXe siècle, c'est la théorie du chaos. Donc, quand on a un modèle qui nous permet d'anticiper quelque chose qui n'est pas prévisible, de montrer des petites différences à l'entrée peuvent conduire à des grosses variations à la fin. Donc ça, c'est pour modéliser ce qui est incertain, c'est assez impressionnant. Alors, c'est incertain sur le résultat individuel, et après, en statistique, on retrouve des formes, on retrouve une probabilité de résultats de certaines choses. Donc, on retrouve une certaine description précise, mais dans la probabilité et non plus dans la certitude. Donc, bon, ça, c'est aussi une culture un peu particulière.
Hein. C'est aussi une façon de voir. Et ce qui m'intéresse, justement, c'est de montrer qu'on a appris à regarder l'incertain d'une autre façon. On a appris, comme tu dis, à faire des approches statistiques. Il y a un exemple qu'on donne très classique qui dit, voilà, Monsieur Albert Dupont, il est vendredi soir, va-t-il aller chez sa belle-mère ? Il habite à Paris, sa belle-mère habite quelque part dans le Poitou. Va-t-il aller chez sa belle-mère? Ben, ça va dépendre. Au bureau, on l'aura fait chier. Sa femme n'aura pas nécessairement envie d'aller voir sa mère. Les gosses, par contre, il serait bien de pouvoir s'en débarrasser le week-end pour faire autre chose. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, on va pondérer pour dire « je vais chez ma belle-mère ou j'y vais pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Et le comportement d'Albert Dupont et de Madame Durand n'est pas prévisible. Par contre, statistiquement, le nombre de gens qui iront en voiture par l'autoroute A, machin, en direction du Poitou, est une variable assez bien connue le vendredi soir, parce que malgré le fait qu'ils sont tous constitués d'Albert Dupont et de Madame Durand, qui ont pris leur décision de manière non prévisible, statistiquement, la masse des Dupont et Durand a décidé ou non de partir à la campagne, parce qu'un certain nombre de facteurs classiques sont bons. Et ça veut dire qu'on a appris à regarder non pas le comportement de Dupont, mais le comportement du flot de voitures à la sortie de la 67. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce travail-là, le travail du micro-macro, le travail du macro-micro, c'est quelque chose que la réalité nous a obligés à apprendre dès qu'on a plongé dans le non-discible, dans le non-linéaire, dans le chaotique, dans les... Voilà. Et ça, c'est aussi, maintenant, les scientifiques, comment le raconte-t-on et comment nous, écrivains, on le raconte et comment on arrive à vous le faire comprendre?
Oui.
Permettre une intervention. En fait, je suis en master de communication scientifique à Strasbourg, donc ce genre de questions m'intéresse. Et par rapport à ce qu'on disait, la présentation du réel aux élèves, les discussions qu'on a eues en cours, c'était de dire qu'en fait, tout ce qui est physique, chimie, biologie, on va cracher aux élèves un modèle tout fait, qu'ils doivent apprendre par cœur, et en fait, on leur présente un résultat. Or, la démarche scientifique, c'est observation, analyse, interprétation, conclusion. Et les élèves, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur donne la conclusion toute mâchée. De un, ça ne les intéresse pas forcément. La plupart du temps, même, ça les rebute. Et de deux, ça ne leur donne pas la démarche scientifique, alors qu'en fait, plutôt que de leur donner des faits que de toute façon, le théorème de Pythagore et la thermodynamique et tout ça, après, ils s'en fichent s'ils ne continuent pas dans les sciences, pourquoi ne pas leur donner ce type de démarche? Et ensuite, au niveau vulgarisation, il y a tout un travail. Donc, j'ai entendu Petit Débrouillard à Zaz, que je connais aussi.
Comme tous ceux du master de communication scientifique de Strasbourg. Ouais. Oh non,
connais,
oui.
Moi, ouais. Je connais parce que j'ai fait un stage chez vous.
D'accord.
Donc, toute cette image de science au niveau scolaire, il y a un réel problème actuellement. Là où aussi, on a du mal à aborder le réel, c'est que l'écart entre le modèle et le réel n'est pas expliqué non plus. C'est-à-dire que c'est ça et c'est pas autrement. Alors après, la science-fiction permet plein de choses, puisque c'est quand même après dans la science-fiction au niveau littéraire, mais ne serait-ce que la science en elle-même, c'est devenu un objet qui, au niveau de la façon dont c'est abordé,
Alors c'est vrai qu'il y a des allers-retours. Je pense que beaucoup de scientifiques sont conscients de cette différence. Et le problème, c'est au niveau de l'enseignement, c'est très difficile d'enseigner le doute, d'enseigner l'incertitude, d'enseigner... On a besoin de recettes toutes prêtes. Et on se rend compte, même en communication scientifique aussi, qu'il y a des allers-retours. Ben, typiquement, les petits débrouillards, la main à la pâte ou d'autres structures enseignent plus la démarche que le résultat. À la limite, moi, qu'un gamin, avec les faits qu'il a, me raconte quelque chose qui est complètement différent de ce qui est communément admis, si la démarche est intéressante, je préfère, bon, je lui donnerai des éléments pour qu'il aille comparer ça et puis voir que ses propositions ne sont peut-être pas tout à fait en phase.
Il ne faut pas les laisser avec des idées fausses non plus.
Voilà, mais pas lui dire c'est faux. Et le risque dans les exercices, je déteste les exercices dont on connaît la solution. Qu'est-ce que c'est frustrant ? C'est ce qui est embêtant souvent dans l'apprentissage des sciences. On demande à des gamins de résoudre des exercices dont on connaît la solution. Donc quelle est l'utilité ? On va regarder à la fin, on a la solution et c'est bon. Et si d'autres savent le faire, pourquoi Bon, oui.
C'est juste une question sémantique. Vous dites enseigner le doute et je me suis sentie réagir en disant non, enseigner le questionnement. L'aura sémantique des deux
n'est
pas la même.
Oui.
Plus le questionnement, le doute. Le doute, c'est ne pas recevoir ce que l'on sait. D'accord, c'est, tu vois. Moi, je sais je suis une des personnes les plus âgées de l'assistance, mais quand j'ai appris quand j'ai appris la géométrie quand j'étais petit au CM2, des choses comme ça, le théorème de Pythagore, on m'a pas fait des mesures, on m'a pas mesuré des carreaux dans un cahier, on m'a pris des dessins pour me montrer la fameuse démonstration géométrique que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des. On me l'a montré avec un truc. Une des questions que je me suis retrouvé quand j'étais prof de maths à l'époque, une question intéressante pour justement aider à construire un raisonnement, c'est de dire à des terminales, bon, vous avez une tarte circulaire, vous savez la diviser en deux, vous savez faire des parts pour quatre, divisez-la-moi en cinq. Ce qui est un problème très simple. C'est extrêmement simple à faire. Et dans la vraie vie, croyez-moi, ça sert. Mais c'est très facile à faire. Simplement, il y a une astuce à trouver. Et cette astuce, ça leur a demandé de faire un travail un petit peu mathématique pour justifier le fait que ça marchait. Parce que je leur ai pas dit donnez-moi la solution, je leur ai dit donnez-moi la preuve que les cinq ont bien la même part. D'accord ? Et c'est très facile à faire, hein, encore une fois. Mais c'est tout simple. Et ça, ce travail-là, c'est aussi se servir de ce que je sais, le mettre à l'épreuve d'une réalité. Et puis, est-ce que ça marche pour un machin qui est ovale, par exemple ? Est-ce que ça marche pour un gâteau qui est carré ou rectangulaire comme... Est-ce que ça marche pour une bûche de Noël, par exemple ? C'est une question intéressante. Eh bien, tout ça... Ah oui, c'est vrai.
Tu coupes ta bûche...
Je vais la boucher comme ça, mais en général, c'est un peu parce que comme le truc, il a des couches différentes de trucs, il y en a qui se font léser parce que l'intérieur n'est pas uniforme. C'est des vraies questions comme ça qu'on pose. On leur dit, voilà, est-ce que pour ta tarte à l'abricot, ça marche ? Par contre, suppose que tu veuilles la couper en cinq et qu'on ait fait moitié tarte abricot, moitié tarte banane. Comment tu fais ?
Est-ce que tout le monde a la même part de trottoir, tu sais, de tarte ?
Oui. Ah oui, non.
Parce que ça, c'est...
Ah, c'est les vraies questions. Toutes ces questions-là, elles sont très simples. Et les mathématiques, n'oubliez pas, ça sert à ça. Ça a été construit, le théorème de
Pythagore.
Ça a été construit pour découper les tartes, pour mesurer la hauteur des choses. Le théorème de Thalès, le fameux théorème de Thalès qu'on vous a bassiné, a servi à mesurer la hauteur des pyramides. On ne savait pas quelle était la hauteur du pyramide, tout simplement parce qu'on n'avait pas moyen de creuser un trou pour passer une ficelle à l'intérieur. Donc on ne le savait pas. Et on ne savait pas comment déterminer la hauteur d'un bâtiment si haut, simplement avec une mesure de la seule chose qu'on avait, qui était son ombre. Et il y a un mathématicien qui s'appelait Thalès de Millet, qui a débarqué, qui a vu une ombre, qui a dit « Oh, on doit pouvoir faire comme ça ». Il a fait la théorie qu'elle est bien, et il a dit « Ça fait exactement le temps ». Et tout le monde a dit « Oh, c'est génial ». Ce qui, quand on tenait compte du fait que les architectes à l'époque étaient payés à la hauteur des bâtiments qu'ils construisaient, jouait un rôle vachement important.
Mais de toute façon, la géométrie, c'était quelque chose de très pratique, puisqu'au départ, c'était créé, ça a été inventé pour retrouver les lieux des champs des différentes personnes après les crues du Nil. Après chaque crue, les marques disparaissaient, il fallait retrouver les propriétés de chacun. Donc, à la base, ça n'a pas été fait pour embêter les gamins sur les bancs des écoles.
Mais pourquoi on ne nous enseigne pas les crues du Nil en primaire, hein?
Ben, je peux te raconter une histoire de l'enseignant que j'ai vécu, qui à un moment donné, en terminale scientifique, se retrouve face à... J'avais vraiment les gamins, les braves gamins, gamins de terminale S, qui adoraient les maths, et on faisait les équations du 3e et du 5e degré. Bon, on était en train d'étudier ça, bon, ouais, machin avec des X et des Y partout.
Et
du 3e et du 5e degré, ben, tu faisais X2 plus BX plus
C. Le théorème d'Abel.
Non, les trucs de X5, X4, etc. Trouver les choses.
Peu importe.
Et je me revois encore, j'avais une classe à peu près comme vous, ils étaient à peu près aussi peu dissipés. Et il y a une demoiselle au premier rang qui, je vois jeter son crayon, qui était une bonne élève. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit, mais à quoi ça sert, toutes ces conneries? Et là, j'ai fait ni une ni deux, j'étais con, hein, comme jeune prof. J'ai dit, ben, écoutez, levez-vous, je vous emmène. Et je les ai amenés, on a traversé la rue, à la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Et j'ai dit, voilà, pilier de Saint-Cernin, voûte de Saint-Cernin. Pourquoi ça tient? Ça tient parce que la forme de ta voûte, c'est le résultant d'une équation de cinquième degré. Et je leur ai fait la démonstration sur une tableau en disant, voilà, si ça, ça ne marche pas, si vous ne savez pas le faire, eh ben, Saint-Cernin, ça c'est trop.
Le problème, c'est que tu n'es pas dans toutes les classes.
Oui. Et puis surtout, je me suis fait. Le problème, c'est que je me suis fait engueuler par le professeur qui m'a dit, mais tu aurais un de tes élèves qui s'est fait traverser, sorti de classe non prévu. Il m'a dit, mais bon, je ne savais pas, très bien, parfaitement raison. Mais à la base, il y a cette information-là, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ça, soyons clairs, ça marche pour la géométrie, ça marche pour les mathématiques simples, ça ne marche pas pour des modèles plus compliqués. Comment sentir, comme on dit, l'improbable? Comment sentir le non-linéaire? Comment sentir le fait qu'à certains moments donnés, les comportements sont chaotiques? Comment parler des ondes? Tu sais, en terminale, à un moment donné, je suis arrivé avec mes copains de terminale, j'aurais dit, regardez, on avait du flan à la cantine, on avait des petites barquettes de flan comme ça, je faisais ping des deux côtés et ça me traçait les interactions sur le flan. J'aurais dit, vous avez vu, c'est comme dans le cours. Ils m'ont tous regardé en disant, il est bizarre, lui.
Oui, non, mais c'est...
Oui, non, mais ça, c'était un truc qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, on ne sait plus. Et au-delà de ça, ton travail à toi, qui est vachement intéressant, c'est de se tourner vers nous et de nous dire, voilà, là, on met du ressenti, on met du personnel. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça ressent, comment c'est.
Et alors, parler, par exemple, de tout ce qui est atomique, moléculaire, particules. Lorsqu'on parle des nanotechnologies, là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'à force de parler... La notion de molécule, j'ai cru qu'elle était communément admise et je me suis rendu compte dans des conférences grand public qu'entre atomes, molécules, particules, nanoparticules, alors parce qu'il y a, aussi les particules élémentaires dont on parle, et ensuite nous on parle de particules nanométriques. Et c'est encore autre chose. Et du coup, on a un problème de vocabulaire et d'image que l'on a donné au grand public de qu'est-ce que la matière, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont aucune notion réelle de ce qui se passe au niveau de la matière, la notion de température, c'est hyper important, c'est l'agitation des molécules, mais on s'imagine souvent que la température, c'est quelque chose que l'on va pouvoir... C'est une grandeur qu'on va pouvoir mesurer n'importe comment. Or, si on a un seul atome, mesurer la température d'un atome, ça n'a pas de sens. Et voilà, les bases de thermodynamique ne sont pas du tout compréhensibles quand on... Et c'est ce qui est intéressant dans les nanotechnologies aujourd'hui, c'est qu'on nous a appris ce que c'était qu'un atome et une molécule. On a des phénomènes qui se passent au niveau macroscopique que l'on voit, et c'est tout le lien entre l'agitation de ces molécules et ce que l'on observe. Les matières plastiques, c'est d'une complexité, on n'y comprend rien. Même moi, ça fait un moment...
Les cristaux, l'école,
comment voilà. Dans mon laboratoire, on travaille aussi beaucoup sur la notion de surface et d'interface. Pourquoi est-ce que l'eau glisse sur le téflon? Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, il y a quelques couches de molécules, voire des interactions de molécule à molécule, donc qui sont, voire en dessous du nanomètre. Et c'est de ces petites interactions-là que va dépendre le comportement de tout le fluide qui va passer dans un tuyau. Quand on fait de la microfluidique pour faire ou les imprimantes jets d'encre, pour ne pas qu'elles se bouchent, il faut tenir compte des interactions vraiment très locales. Et se rendre compte qu'on a comme ça des phénomènes à des échelles très petites qui conditionnent des comportements, pas tout à fait macroscopiques, mais presque. Hein. Tu peux, ben si tu as toutes les turbulences, les phénomènes de turbulence dépendent de l'interaction au niveau de la surface du fluide, et puis de la, vous lancez une balle de golf, si elle n'avait pas ses petits trous, elle se comporterait pas pareil que quand. C'est des petites choses. Et ces notions-là, même. Enfin, on parlait de vertige, ben moi, ça me donne le vertige. Parce que j'arrive à comprendre ce qui se passe à l'échelle de la molécule, les interactions. J'arrive à voir à peu près ce que sont les équations de mécanique des fluides autour. Mais le passage de l'un à l'autre, c'est toujours encore un domaine qui se remet en cause en permanence, où on a une avancée d'un côté, une avancée de l'autre, et on n'a pas de modèle qui nous permette en même temps de calculer localement et de faire des calculs sur une échelle plus large. C'est la notion de multi-échelle. Alors, on commence à la voir apparaître aujourd'hui. On en entend parler de plus en plus, mais c'est cette pensée de la matière qui va de l'atome au macroscopique. Et tu parlais de choses difficiles à faire comprendre. Pour moi, ça, c'est un enjeu, sans doute. J'aimerais réussir à transmettre cette pensée de la matière de poupées russes, mais pas des poupées russes qui sont toutes semblables, qui ont toutes une règle un petit peu différente. Et si on n'a pas cette notion de poupées russes, on ne peut pas comprendre ce qui se passe autour de nous. Il y a toujours un moment où on va bloquer.
En fait, les modèles ont leurs limites. Donc, dès qu'on a atteint une limite, on passe à un autre modèle.
Oui, attends, tu parles de discontinuité. Or, les modèles sont emboîtés en étant... Oui, enfin,
c'est ça, il n'y a pas vraiment de discontinuité non plus, même s'il y a si on est obligé de passer d'un modèle à l'autre, comme on passerait d'une vitesse à une autre sur la voiture, mais comment faire pour ne pas qu'on ne soit pas obligé de tout démonter, hein, on veut rouler en cinquième.
Quelque chose qui apparaît en ce moment et qui est aussi une des révolutions, je dirais, des 20 dernières années dans nos mentalités, et quelque chose qu'à ma connaissance, dont on ne parlait pas avant, c'est la notion d'information liée à tout, c'est-à-dire le fait que le système échange de l'information avec lui-même, qu'il existe un échange permanent d'informations entre tout, entre les atomes, les quarks, qui sont véritablement, qui échangent entre eux une quantité d'informations tellement dingue qu'il y a même eu l'hypothèse de dire la fameuse matière noire qu'on n'arrive pas à trouver, 90% de l'univers, c'est tout simplement de l'information sous une forme encore non détectable, puisqu'elle n'émet pas d'information, puisqu'elle en est. Et non, mais c'est une théorie qui existe. Oui. Et l'information...
J'ai du mal à appréhender même ces notions-là. Je les ai entendues, mais j'ai du mal à les faire miennes.
Un exemple d'information chez nous, dans les avions, qu'on connaît extrêmement bien, c'est tout simplement le problème du mur du son. Le fameux mur du son, on vous l'explique en aérodynamique, avec des calculs, etc. Un G étant lorsque l'avion atteint la vitesse du son, ben, il y a le fameux bang du mur du son. Est-ce que vous savez tout simplement pourquoi ? C'est de l'information. Imaginez que vous êtes dans une rue, il y a des gens dans la rue, vous savez, c'est un samedi après-midi, c'est la rue où il y a tous les magasins, et puis en plus, il y a des mecs qui jouent de la guitare par là, et puis ça tombe bien, il y a une manif. Bon. Donc, rue remplie de gens. Gens normaux, hein, je veux dire, gens comme vous qui se connaissent, qui sont capables d'échanger de l'information. Et à ce moment-là, il y a un type avec une ambulance, là, un petit truc qui fait pipi, 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 pipi. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous écarter. Vous allez vous écarter parce que vous entendez arriver l'ambulance, vous allez vous regarder, vous dire, bon tiens, je vais me pousser un peu vers là. Si l'ambulance est assez loin ou si, je dirais, le son va très vite, vous avez largement assez de temps pour vous préparer, donc vous avez lui laissé la place. Vous allez tout simplement lui laisser l'emplacement pour sa trajectoire pour qu'il ne heurte personne. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui coûte le moins cher à l'univers, en fait. D'accord ? Au fur et à mesure, l'ambulance prend de la vitesse et du coup, le bip 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 bip, ben, vous l'entendez de plus en plus près. Donc, vous avez à peine le temps de vous organiser, vous poussez un petit peu, donc vous laissez de la place. Et puis, à un moment donné, il va à la vitesse du son, ce qui fait que vous ne l'entendez pas, le bip bip bip. Il est arrivé avant même que le bip bip bip, vous l'ayez entendu. Et bien, vous allez vous le prendre dans la gueule. Pan, vous ne l'avez pas entendu arriver. Pan, 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 il va se taper tout le monde. C'est ça, un mur du son. L'information qui dit au système constitué de les gens dans la rue et l'ambulance qui passe, organisez-vous du mieux possible, cette information-là qui est transmise à la vitesse du son, elle n'est pas arrivée. Et donc, mur du son, éclatement, poum. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est bête, hein ? Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, un système, c'est pas seulement moi dans l'ambulance qui essaie de passer, c'est pas seulement moi la rue qui essaie de faire mes courses, c'est tout le monde. Et interagissant les uns avec les autres, parce qu'on est des gens intelligents et que par conséquent, on essaie autant que possible d'éviter de se prendre l'ambulance en travers de la figure. Ce qui est le but de l'univers. L'univers ne souhaite pas tomber en morceaux, donc il s'arrange pour faire ça. Mais pour s'arranger à ce que l'avion passe dans l'air, je dirais, sans faire trop de dégâts, eh bien, l'ensemble des molécules d'air que va toucher l'avion et l'avion lui-même s'organise de manière à ce que l'échange d'informations fasse que le système global soit le plus efficace où on s'écarte. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça, vous essayez de l'expliquer à l'échelle de la particule du rayon de lumière qui part vers du centre de la galaxie vers nous, c'est la même chose, sauf que ces mécanismes-là, on ne les comprend pas, mais l'univers se parle à lui-même, s'explique à lui-même comment rester ce qu'il est et éviter autant que possible de se casser. Et ça, c'est très difficile à comprendre.
Alors, là, tu parlais de mur du son. Alors, il y a... Certes. Il y a comme ça des phénomènes qui paraissent en même temps lointains et on se rend compte qu'il y a des conséquences au niveau du quotidien. Le mur du son, on peut le reproduire assez facilement avec un fouet quand on entend clac. Et le son du fouet, c'est lié aussi au franchissement du mur du son du bout de la pointe du fouet. Ça, c'est quelque chose qui est rarement... Et sinon, concernant aussi tous ces phénomènes de propagation, soit du son, soit des ondes, quand on parle de l'effet Doppler, alors c'est simplement, tu sais, quand l'ambulance... Quand on entend un son plus aigu, quand un véhicule arrive, est plus grave quand il repart. Et alors, je repense à mes étudiants là, de l'ENSAD. Il y en a qui ont voulu retranscrire l'angoisse qu'on pouvait d'aller vers une poignée de main inconnue. Alors, ils ont fait une poignée de main dans le noir qui ressort. Enfin, quelqu'un qui tourne la main. Et on monte un escalier. Et ils voulaient montrer l'approche... Et j'aurais dit, utilisez l'effet Doppler. Et je crois qu'ils avaient envie, ils l'ont fait plus ou moins spontanément, mais sans se rappeler que c'était l'effet Doppler. C'est-à-dire, quand ils s'approchent, il y a un certain son en montant l'escalier, et il y en a un autre en revenant. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est comment l'art réussit à retranscrire ces phénomènes que nous, on a des fois du mal à expliquer. Alors c'est sûr, quand j'aurais dit c'est de l'effet Doppler, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Puis ensuite, se souvenant de ce que j'avais raconté, ils ont remis les choses en place, sans savoir forcément les équations. C'est pas ça, mais l'effet global, ils ont réussi à le réutiliser dans cette installation. Donc il y a comme ça une façon de présenter les choses. Là, tu prends l'image de l'ambulance. Alors, mais il faut faire attention, parce que ces modèles, c'est nous qui les créons. Un moment pour exprimer un point de vue. Mais avec ton histoire d'ambulance, comment tu expliques que quand on a franchi le mur du son, on n'a plus ce son. Imaginé ça, mais l'avion qui va au-delà du mur du son, qu'est-ce qui se passe par rapport à ton ambulance? Tu as un problème de modèle. Tu as un problème par rapport à ce que tu viens de raconter pour continuer ton explication.
Oui, c'est vrai. Ou alors on peut compléter le modèle d'une autre façon, mais c'est vrai. Disons que ce qui intéressait les gens, c'est le moment où ça fait bang. Et le moment où ça fait bang, c'est vraiment parce qu'on heurte quelqu'un qui dit « Mais ça va pas, non ?» parce qu'on l'a pas prévenu.
S'il a encore la force de... S'il a encore la force de le dire...
Non, c'est le râle d'agonie, en fait.
C'est le râle d'aller... Voilà. Mais vous voyez, en fait, là c'est amusant parce qu'on en arrive... On utilise une image... que l'on transmet au grand public ou que l'on transmet à d'autres. Si la réalité physique n'est pas intégrée, on peut aller vers des délires autour de cette image qui n'ont plus rien à voir avec le phénomène. Et du coup, c'est vrai pour les écrits de science-fiction et c'est vrai aussi pour le travail art-science, si les scientifiques... ne propose que les images pour faire passer les messages et que ce sont eux-mêmes qui ont créé ces images, j'ai peur qu'on aille vers des contresens complets. Et quand et ce travail sur l'imaginaire, j'avais utilisé la phrase suivante, travailler en amont de la créativité, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire ces allers-retours entre l'image et le phénomène, entre un scientifique et la personne qui va utiliser ce concept, quitte après à ce qu'on ait une des images qui soit utilisée, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et c'est le risque. On est toujours, pour percevoir ces choses indicibles, il faut bien faire attention qu'on est obligé de les rendre dissibles, mais qu'on en oublie toute une partie. À la façon d'une photographie, tu as un château, tu donnes une photo qui est en 2D d'un truc en 3D, eh ben, tu ne vas pas pouvoir donner l'intégralité des choses. Par contre, tu peux faire un coup le tour et puis redonner une photo en disant bah, « Tiens, c'est sous cet angle-là que tu verras le mieux ce que tu veux voir. »
Si vous photographiez la rivière avec les tourbillons, vous allez avoir une photo instantanée des magnifiques tourbillons. Et maintenant, vous avez des gens qui vont arriver en disant « Mais elle est fausse ta photo, ce n'est pas les mêmes tourbillons. » Et ils ont raison. Ce n'est pas parce que vous l'avez photographiée à un moment donné que vous aurez rendu la réalité. Cette réalité n'existera peut-être tout simplement plus. La difficulté, c'est de dire « Je suis capable d'inventer un appareil qui me fabriquerait une photo suffisamment ressemblante de la rivière pour que, à quelques moments que l'on regarde, on ait le sentiment de se retrouver. » C'est ça qui est difficile. Et ce qui est difficile, c'est quelquefois, on se laisse même emporter par le modèle et dire « La réalité, c'est mon appareil photo, c'est plus la rivière. » Et là, on est dans la question que les scientifiques se posent à tous les moments de leur vie, se dire « Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je crois ?»
Et qu'est-ce que je transmets? Et qu'est-ce que je transmets? Parce qu'il y a une telle complexité dans les phénomènes, on est obligé de ne transmettre que des photographies. Et derrière, il y a tout le process de création de la photo qui souvent est oublié. C'est souvent une réflexion qui commence à être connue par rapport aux images du cosmos. Ces magnifiques images en bleu, rouge, vert, de choses qui n'ont qu'une couleur ou qui sont dans des rayonnements qui sont invisibles à l'œil nu. On fait des fausses couleurs seulement. Eh bien, aujourd'hui, les images qu'on a du cosmos, c'est les piliers de la création avec des couleurs magnifiques, mais qui ne correspondent qu'à une image reconstituée.
Mais ça ne correspond pas à rien.
Non, c'est pas à rien.
On ne verra pas bien en noir et blanc. Mais en fait, si on pouvait être assez frais, ça correspondrait à l'image. C'est ce qui correspond à la réalité.
Ce serait une représentation qu'on pourrait avoir si on avait des capteurs, si notre vision était capable d'enregistrer d'autres informations.
Ça dépend des couleurs qu'on perçoit, avec les yeux. L'abeille, elle n'a pas les mêmes couleurs que nous.
Je veux dire, si on pouvait voir tout le spectre dans le visible, ce serait le rendu qu'on aurait. Ce n'est pas éteint aléatoirement.
Oui, 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 bien évidemment. Mais ce travail de reconstruction d'image, d'explication de comment on l'a construit, est rarement fait. Et du coup, on a des gamins qui arrivent en club astro et qui sont déçus de ne voir que des petits points blancs dans des lunettes. Et quand ils aperçoivent enfin les anneaux de Saturne, ils trouvent ça décevant parce qu'ils les ont vus beaucoup plus jolis dans leur livre à la découverte de l'univers.
Il faut leur dire, ben, à ton tour de construire une fusée et d'aller les repartir.
Bien. Oui, écoute, on va avoir le temps pour une ou deux questions, puis je crois que là on va devoir rendre la salle, mais vas-y, justement.
Est-ce qu'en tant que scientifique, on n'a pas seulement soi-même aussi une accumulation d'images de la réalité qui est plus importante que va l'avoir le grand public parce qu'on travaille depuis plus longtemps dans le domaine? Mais moi, c'est l'impression que j'ai en tant que scientifique, c'est dans le domaine où je travaille. De petit à petit de progresser dans ma compréhension des images que j'ai, mais finalement de ne travailler qu'avec des images que je me suis faites pour essayer d'appréhender le phénomène sur lequel je travaille, parce que je travaille aussi sur les ondes et que c'est pas quelque chose qu'on...
Alors, Bachelard parlait d'obstacles épistémologiques aussi, et lorsqu'on a un modèle, lorsqu'on s'est forgé cette image, on doit travailler sur soi pour être en mesure de le déconstruire pour aller à nouveau plus loin. Et on... Oui. Donc, si... Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans mon travail de conférencière, c'est que je suis obligée en permanence de m'interroger sur mes propres représentations. Bien sûr, j'en crée de nouvelles, mais comme je suis obligée toujours d'en recréer de nouvelles, je suis obligée de déconstruire celles qui me semblaient évidentes il y a quelque temps. Je vais donner un exemple. J'avais fait une conférence sur les nanotechnologies et on parlait de miniaturiser. Et puis, il y a des écrivains qui imaginaient prendre atome par atome pour reconstruire de la matière ou faire des choses de plus en plus petites. Et puis, il y a quelqu'un dans l'Assemblée, pas scientifique pour un rond, qui dit « Mais vous cherchez à miniaturiser, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des atomes plus petits ?» Et alors, j'ai regardé, j'ai dit « Écoute, je crois qu'on m'a jamais posé une aussi bonne question. » Parce que, en tant que scientifique, jamais, jamais, personne n'aurait osé poser ce genre de questions. Et là, bon, c'est sûr que ça demande de tout reconstruire et détruire l'univers, mais effectivement, c'est une éventualité que j'avais jamais envisagée.
Voilà, Elisabeth.
Je repense à votre idée de la matière comme poupée russe, qui est tout à fait fascinant. Et quand vous avez prononcé ce terme poupée russe, je me suis sentie penser, est-ce que émergence, le terme émergence,
oui,
a un rapport quelconque quelque part?
Oui, alors ça, la notion d'émergence, c'est dans la, c'est Edgar Morin qui en parle beaucoup. On a un phénomène que l'on connaît bien à une certaine échelle, et quand il arrive, quand on le développe d'un point de vue collectif, quand il y a des échanges collectifs, un phénomène d'une autre nature qui est plus ou moins prévisible, mais souvent assez imprévisible, apparaît à une échelle supérieure. Et cette notion d'émergence est importante dans la compréhension de ces poupées russes. Dans les phénomènes d'émergence intéressants, il y a le jeu de la vie. On pose des carrés blancs et noirs, et puis on dit que quand il y a tant de carrés noirs autour d'un carré blanc, il y a un nouveau carré noir qui apparaît, puis il y en a un autre qui disparaît, etc. Et c'est un petit jeu, on trouve ça facilement. Les règles sont extrêmement simples, mais de temps en temps, on voit apparaître une bestiole qui bouge, on a une structure qui se reproduit, il y en a d'autres qui disparaissent, il y en a d'autres qui peuvent manger les... Il y a un carré noir tout seul qui va être mangé par une autre structure. Et on a créé tout un bestiaire dans le jeu de la vie. Et ça reste fascinant. Et on ne sait pas... On sait le modéliser, on sait faire des simulations, mais on ne sait pas le conceptualiser complètement. On n'a pas de règle générale de l'émergence.
Oui, puis quand on descend dans l'infiniment petit, on vous dit, bon, il y a ce qu'on voit, la table, puis ensuite il y a la grosse molécule, puis les atomes. Enfin, on imagine encore une espèce de notion de boule avec une dimension et quelque chose d'un peu solide quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Puis après, on descend au niveau des particules, on descend au niveau des quarks, etc. Et puis on arrive à cette notion absolument fascinante qui est ce qu'on appelle la mer quantique, où là, c'est véritablement le moment où la réalité a décidé d'abandonner toute prétention à la réalité pour aller boire un coup. C'est vraiment un truc où on vous dit, voilà, on est dans une espèce de magma. Si on est dans l'incréé parfait, de temps en temps il y a un machin qui sort, que c'est plop, ça devient une particule, bon, elle a une durée de vie,
ouais.
Bon, elle va retomber dans le machin, puis plop, elle va en venir. Et l'univers, c'est rien d'autre que des plop, 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 plop permanents, mais en dessous, il y a cette espèce de machin d'incréé, d'où le truc. Et là, on est dans l'émergence au sens parfait, c'est-à-dire l'univers lui-même émerge de lui-même, de temps en temps, de façon régulière et, semble-t-il, de façon continue, ce qui est heureux. Mais on en arrive là. Vous avez des physiciens qui vous décident en disant l'existence même de l'univers n'est pas prouvée, puisqu'on n'est pas du tout sûr que le coup d'après, l'émergence soit une bonne idée. Oui. Et ça, c'est intéressant. Tu vois. Feynman s'était posé ces questions.
Oui, mais oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on commence à partir là-dedans, je t'avoue que...
On est vraiment malade et on dort pas bien.
Mais personnellement, à un moment, je me pose des questions sur qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ben, on se dit, bon, on va commencer à expliquer simplement comment les atomes, les molécules... Moi, je m'arrête à peu près à ce niveau-là. En dessous, je me sens dans ma zone de... je quitte ma zone de sécurité et je ne sais plus trop de quoi je vais parler.
Voilà, en tout cas, je voulais conclure et remercier Carole. Et vous comprenez donc maintenant pourquoi nous, les écrivains de science-fiction et d'auteurs d'imaginaire en général, on aime tellement parler avec les scientifiques. C'est parce qu'ils sont quand même vachement, vachement plus raffinés que nous. Je vous remercie.